franceinter.fr.
L'Europe donc qui ouvre la porte aux importations de plantes génétiquement modifiées, c'est aujourd'hui à la une de notre rendez-vous de la science. Et ça ne plaît pas du tout évidemment à José Bové.
Les États-Unis ont dit que les OGM étaient une ligne rouge et qu'il n'était pas question qu'il y ait de limitation sur la question des OGM. Donc on ouvre les vannes de l'Europe sans aucun débat, alors que 75% des Européens n'en veulent pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes. C'est complètement aberrant ce qu'on est en train de voir actuellement au niveau européen.
Voilà, José Bové, chez nos confrères d'RTL, c'était ce week-end, vendredi. Donc, la Commission européenne a autorisé pour une période de 10 ans la vente de 12 nouvelles espèces transgéniques. Elle a également renouvelé 7 autorisations, dont certaines espèces contestées. Éric Meunier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur pour l'association InfoGM. Et puis par téléphone depuis Caen, nous sommes avec vous, Gilles-Éric Serralini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie moléculaire et président du conseil scientifique du CRIGEN. Éric Meunier, pour bien comprendre le contexte, donc autorisation accordée vendredi, qui a surpris tout le monde visiblement, y compris le conseil des ministres européens. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Oh, ça a surpris tout le monde parce que... La Commission européenne était plutôt d'une part attendue sur le dossier du maïs 1507, qui est une demande d'autorisation pour la culture, et sur lequel la Commission européenne, avec les États membres, avait mis en place un cadre législatif complémentaire, c'est-à-dire avait donné un deuxième outil aux États membres pour pouvoir interdire la mise en culture des OGM. Et sur ce maïs-là, les États membres n'avaient pas atteint de majorité qualifiée pour le maïs TC1507, donc pas d'autorisation, pas de décision d'autorisation. Donc le dossier revenait sur la table de la Commission européenne. Comme le cadre législatif est complet pour la culture, on attendait plutôt la Commission européenne sur ce dossier-là. Donc elle surprend tout le monde parce que le 22 avril, donc mercredi, elle fait une proposition aux États membres pour, pareil, un second outil pour pouvoir interdire les importations d'OGM. Et deux jours plus tard, elle délivre 19 autorisations, dont des renouvellements d'autorisation, comme vous avez dit.
Il s'est passé quoi en deux jours ?
Il s'est passé quoi en deux jours ? On pense que la Commission européenne, là, fait un choix politique assez clair, un signal politique clair à différents interlocuteurs. D'une part, aux entreprises de biotechnologie qui, en octobre 2014, s'étaient plaint à nouveau des délais de traitement des demandes par la Commission européenne et les États membres. D'autre part, aux États membres eux-mêmes, en leur disant autant avec Monsieur Barroso, quand il y avait des décisions à prendre sur des textes législatifs, on mettait un peu en suspens les autorisations. Là, le message aux États membres a l'air assez clair de dire on n'attendra plus que vous vous décidiez ou vous tergiversiez sur des textes législatifs. Et puis surtout, le dernier message, comme le passage, l'intervention de José Bové que vous avez passé à montrer, c'est une telle décision, alors que la Commission européenne et l'Union européenne négocient le traité transatlantique avec les États-Unis. Là, pareil, le signal de « on vous fait cette concession de se remettre à jour sur les autorisations d'OGM pour ne plus fermer l'Union européenne » est assez clair.
Gilles-Éric Serralini, comment vous accueillez-vous cette nouvelle ?
Écoutez, très mal, cela fait maintenant 20 ans que la Commission européenne a donné toutes les autorisations de culture et d'importation contre l'avis, évidemment, du Conseil des ministres. Jamais les conseils des ministres, représentant les populations, n'ont été d'accord. Et aujourd'hui, la Commission veut en fait légaliser les contaminations qui nous arrivent par les importations. C'était un dossier qui leur importait parce que on pouvait montrer qu'il y avait des importations illégales et ça bloquait tout un système économique. Mais le scandaleux de l'affaire, c'est qu'elle autorise ces OGM avec très peu ou pas de tests sur la santé publique,
c'est ça,
malgré
ouais.
toutes les données qu'elles ont. Et donc moi, je propose que les personnes de la Commission européenne soient personnellement mise en cause en cas de mort ou de malade due à ces consommations qui sont pleines d'herbicides. Car en effet, elle reprend les vieux mythes des mêmes OGM la plupart du temps, mis à part deux œillets, avec des herbicides en grande quantité à l'intérieur.
Sauf que, Gilles-Éric Serralini, comment faire le lien direct aujourd'hui entre une consommation d'OGM et la mort d'un individu ? On ne peut pas le faire pour le moment.
Non, on peut pas le faire. On a un peu plus de chance de le savoir avec les malades sur le long terme parce que les OGM sont étiquetés en Europe. Mais si la répression des fraudes mesurait davantage la quantité d'herbicides qu'il y a à l'intérieur des OGM, on pourrait s'en rendre compte. Mmh. Et aujourd'hui, on sait aussi que nous avons montré dans notre laboratoire que la consommation d'herbicides Roundup et d'OGM au Roundup à long terme, le NK603, c'est le maïs qui vient d'être réautorisé, c'est celui qu'on avait testé, eh bien rend malade. Et aujourd'hui, on a bien compris tout ce que les lobbies ont fait pour essayer de faire taire les conséquences de cette étude.
C'est le fameux maïs avec les photos de rats et ces tumeurs qui ont fait le tour du monde. Hein.
Bien sûr, qui ont été non seulement confirmées, mais republiées avec des données statistiques nouvelles aujourd'hui. Et il se trouve qu'on a compris que si l'étude avait été rétractée, c'est parce que quelqu'un de Monsanto s'était introduit dans le bureau éditorial de la revue un mois après que nous ayons publié, alors que la revue avant nous félicitait. Mmh. Donc on a compris, dénoncé, expliqué dans un livre tous les mécanismes des lobbies qui voulaient cacher cela, et cela est en lien avec les nouvelles autorisations de ce maïs.
Axel.
Gilles-Éric Serrani, là, les 12 nouvelles espèces autorisées sont testées par l'EFSA. En quoi consistent ces tests ?
Alors, ça consiste à relire les dossiers présentés par les industriels. L'EFSA n'est pas un organisme scientifique qui fait des tests. Donc, en fait, ils ont peu de compétences pour ça et pas de moyens. Et ensuite, ils voient des effets significatifs. Par exemple, prenons l'exemple du maïs 874-60. Bon, c'est des numéros qui ne disent rien au public, mais c'est un maïs de nouveau avec un gène de résistance à un antibiotique. Et il donne un poids plus faible du cœur et du cœur par rapport au cerveau. Eh bien, la commission, et c'est le cas pour deux autres OGM, eh bien, la commission se contente de dire, derrière la ESA, qui est l'organisme européen qu'elle contrôle sur la santé, ben écoutez, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est relevant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a une signification biologique. Alors que la moindre, quand on donne ça à des millions d'Européens, à 450 millions d'Européens, la moindre des précautions serait de dire, bah, écoutez, Serralini, c'est peut-être controversé, mais on va faire un test à long terme comme lui. Et on va attendre le résultat avant de savoir si c'est bon à manger. Il faudrait voir si ça ne donne pas, en fait, des maladies du cœur ou des maladies hormonales à plus long terme. Et en fait, ils ne font pas cela en toute connaissance de cause. Donc, ils ont une responsabilité pénale engagée, à mon avis. Et j'invite tous les juristes et les avocats à se pencher sur ce dossier.
Allez, Marc Lachaiserey, vous souhaitez réagir?
Donc, juste une petite remarque, parce qu'il y a une information que j'ai lue il y a quelques jours. Il y a une organisation internationale, je crois que le nom c'est Transparence Watch, je ne suis pas très sûr du nom, qui juge les niveaux de corruption et d'influence non contrôlés des lobbies et qui accorde des notes à tous les instituts. Et ils viennent de donner la note de la commission, de l'Assemblée de la Commission européenne, qui est extrêmement mauvaise. Donc je ne sais plus le chiffre exact, mais Éric peut-être Meunier. Qu'il y a un lien entre les deux informations.
Vous voulez répondre là-dessus ?
Moi, j'ai aucune information là-dessus.
Non, c'était dans les journaux. Hein, ouais.
Quels sont les recours, justement, aujourd'hui, par rapport à une telle décision ?
Pour comment, les États membres,
comment le consommateur ou les États peuvent réagir aujourd'hui ?
Le consommateur français ou consommateur européen, par rapport à ce qu'il a dans son assiette, il faut qu'il regarde les étiquettes des produits qu'il achète. Hein. Mm-hmm. S'il y a marqué OGM dessus, c'est qu'il y en a. S'il n'y a pas marqué OGM, c'est qu'il y en a moins de 0,9%. Par rapport à tous les produits qui sont issus d'animaux nourris aux OGM, par contre, du lait, des steaks, des œufs, ça, il pourra jamais le savoir parce qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire. Et c'est ça qui explique aussi que aujourd'hui, dans l'Union européenne, les OGM sont principalement utilisés dans l'alimentation animale. C'est epsilon ce qu'il peut y avoir dans l'alimentation humaine.
Gilles-Éric Serralini, pour conclure, vous souhaitiez répondre à Marc Lachaiserey, peut-être ?
Oui, je souhaitais dire que, évidemment, le niveau de transparence, pour moi, qui l'ai côtoyé pendant plus de 9 ans dans les institutions et dans les ministères, et même j'ai été expert pour l'EFSA, le niveau de corruption est grandiose. Et d'ailleurs, il se trouve qu'ils ont même mis Monsanto dans le comité qui était censé refaire des tests à long terme pour confirmer ou pas nos études. Et c'est pour ça que nous avons démissionné avec perte et fracas. Aujourd'hui, nous dénonçons dans un livre avec un collègue cuisinier tous les lobbies qui sont dans ce système et à la Commission européenne. Songez simplement que la directrice de l'EFSA a travaillé pour l'ILSI, qui est le grand cabinet de lobby qui est présidé par Monsanto. Donc, ça devient inacceptable sans transparence, et je crois qu'il faut exiger que toutes les données sur la santé, les données brutes des industriels, soient immédiatement, ça coûte 0 euro, sur Internet. Elles y sont déjà, mais il faut un code secret pour y accéder. Il faut que les gens s'en préoccupent, parce que c'est leur santé qui est en jeu, et ça montrera à tous les médecins les défauts qu'il peut y avoir dans les analyses de sang après consommation de ces produits.
Éric Meunier, pour conclure.
Pour conclure, juste sur ce point, sur la transparence, et la demande est date, InfoGM, avec d'autres organisations européennes, on a travaillé avec l'EFSA, on leur a fait part des demandes en leur disant il faut que vous rendiez public l'intégralité des dossiers qui sont remis par l'Union, par les entreprises, sous un format avec lesquels les chercheurs peuvent travailler. Manifestement, la réponse des comités d'experts européens, l'EFSA, est que non, ce ne sera pas rendu public sous une forme qui permet d'être travaillé. Il faudra s'identifier, montrer patte blanche sur Internet pour y avoir accès, parce que on se confronte à la notion de secret industriel, soi-disant contenu dans ces dossiers.
Oui. Merci beaucoup.
Pour des analyses de sang, c'est inacceptable.
Merci en tout cas à tous les deux. Gilles-Éric Séralini avec Jérôme Douzelet, hein, c'est ce livre « Plaisir cuisiné ou poison caché ?» Justement, c'est aux éditions Actes Sud. Et puis le site d'InfoGM, hein, Axel, qu'on a mis sur...
Tout simplement, infogm.org.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'analyse génétique vient de faire un grand pas. Une équipe de l'université anglaise d'Huddersfield a réussi à différencier le profil génétique de jumeaux monozygotes en faisant fondre l'ADN des sujets. Les chercheurs ont pu observer la température à laquelle les liaisons d'hydrogène se rompaient. Et comme les mutations génétiques opérées au fil de la vie modifient cette température d'un sujet à l'autre, les scientifiques en ont pu différencier pour la première fois deux jumeaux monozygotes. Une puce contre l'obésité, une start-up israélienne a mis au point une puce électronique à avalé en gélule et qui induit la sensation de satiété. Une fois ingérée, la puce est placée dans l'estomac à l'aide d'un aimant, puis contrôlée depuis un smartphone qui la programme pour produire une stimulation électrique dans le nerf vague. Reste maintenant à faire subir au dispositif une batterie de tests cliniques pour prouver son efficacité. Et puis, il était herbivore, il faisait 3 mètres de long, c'est le dinosaure Chilesaurus, qui a été découvert en 2004 par un enfant de 7 ans. Le groupe de chercheurs qui publie une étude dans la revue Nature s'estime face au dinosaure le plus bizarre jamais découvert. Si son crâne et son bec sont ceux d'un herbivore, sa musculature et son anatomie sont celles d'un redoutable chasseur, une contradiction qui s'expliquerait par la forte pression qui pousse des espèces différentes à suivre une évolution convergente lorsqu'elles sont placées dans le même milieu.